Radio Okapi.
Les journaux, Gisèle Cage. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour votre grand journal de 18h. Très heureuse de vous accompagner pour cette édition où nous faisons le point sur l'actualité essentielle du jour ici chez nous comme partout ailleurs. Transport aérien, un Airbus A320 renforce la flotte nationale et relance les ambitions de Congo Airways, une acquisition stratégique destinée à renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie nationale. Violence à Ituri, une femme victime d'une attaque d'une extrême gravité à Mombasa. Les ADF accusés d'un viol collectif et torture infligée au fils de la victime, selon des défenseurs de droits de l'homme. À suivre absolument un entretien inédit sur le trafic de grands singes, le professeur Amundala Razo révèle les coulisses d'un phénomène qui inquiète au plus haut niveau. On démarre avec une information de premier plan qui concerne directement le Congolais. Samedi matin, Congo Airways a franchi une étape majeure dans le renforcement de sa flotte. À Kinshasa, la compagnie nationale a officiellement accueilli le tout nouvel Airbus A320 présenté lors d'une cérémonie empreinte de solennité. L'événement était placé sous la direction de Paul Djunga, directeur du cabinet adjoint, représentant le vice-premier ministre. Ministre des Transports actuellement en mission. À ses côtés, un représentant de la ministre du portefeuille venu rappeler la portée stratégique de cette acquisition pour le pays. Une avancée significative pour la modernisation du transport aérien en République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, on retrouve Blaise Ndongala Mayanda.
L'acquisition de ce nouvel appareil vient renforcer la flotte de Congo Airways et marque une étape majeure dans le processus de relance de cette compagnie aérienne nationale. S'exprimant à cette occasion, le directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Paul Djunga, a rappelé, je cite, « Cette relance est le fruit d'un processus exigeant et laborieux initié à la suite des hautes orientations arrêtées lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, puis confirmé au Conseil récent. 17 août 2024, fin de citation. Selon lui, ce nouvel aéronef de type A320 traduit la volonté ferme du gouvernement souminois de poursuivre la revitalisation de cette compagnie. Paul Djunga a également exhorté les agents et cadres du Congo Airways à privilégier une gestion rigoureuse et responsable dans un climat professionnel empreint de sérénité et de confiance mutuelle afin de garantir la poursuite effective du plan de relance mis en place par le gouvernement de la République. Pour rappel, en décembre dernier, Congo Airways avait déjà acquis un avion d'une capacité de 90 passagers.
Et pendant que la capitale vit au rythme de l'actualité aérienne, changeons complètement de décor. En province du Tanganyika, l'ambiance est tout autre, marquée par un grave accident ferroviaire qui secoue toute la région. C'est samedi, le train Banakatonga de la SNCC a déraillé à une vingtaine de kilomètres de Kalemi. Le bilan provisoire fait état de 5 morts, dont 2 personnes calcinées, ainsi que plusieurs blessés. Mais certaines sources locales avancent un bilan lourd prévu à la hausse, 8 morts et 5 blessés. Selon les premières explications du ministre provincial de transport, Noris Moulongoy, les mauvais états de la voie ferrée seraient en cause. La locomotive aurait quitté le rail avant de chuter dans un ravin, provoquant un incendie spectaculaire et d'importants dégâts matériels. On écoute maintenant le ministre provincial de transport du Tanganyika, Noris Moulongoy, extrait choisi par Paulin Moulanga.
À plus ou moins 25 km de la ville de Kalemi, que le train Banakatonga avait déraillé, et le bilan provisoire fait suite de personnes blessées d'une locomotive qui a pris feu et s'est renversée dans un ravin, une rivière située au pont de Kabanda, village entre Kiluba et Makala. 5 personnes, dont 3 hommes et une femme, un bébé, et des hommes ont été calcinés. Pour ce qui est du gouvernement provincial, nous avons depuis ce matin dépêché une équipe qui nous a aidé à nous transmettre les détails de tout ce qui s'est passé. Nous avons assisté quelques personnes qui sont acheminées à Calémi pour le soin. Mais jusque là, nous continuons à rechercher les corps sans vie et les bilans définitifs dans les jours, aux heures qui suivent, vous les aurez.
Et dans la foulée de ce drame qui secoue le pays, une autre information nous parvient cette fois du Congo central. Un accident de la circulation s'est produit dans la nuit du samedi 31 janvier sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village Kimwanda dans le territoire de Sekebanza. Selon les premières informations, un camion remorque transportant des vivres frais en provenance de Matadi a brusquement quitté la chaussée avant de terminer sa course hors de la route. Heureusement, aucun membre de l'équipage n'a été grièvement blessé. Aucune perte en vues humaines n'est à déplorer. En revanche, les dégâts matériels sont importants aussi bien pour les véhicules que pour la cargaison destinée à l'approvisionnement. Les premiers constats évoquent une défaillance du système de freinage comme cause probable, mais plusieurs témoins pointent également du doigt le mauvais état de la route nationale numéro 1 sur ce tronçon. Nid des poules, chaussée très dégradée, manque d'entretien, autant des facteurs qui multiplient le risque, surtout pour le poids lourd circulant de nuit. Un incident qui relance une fois de plus les débats sur la sécurité routière, sur la RN1 et sur la nécessité d'un contrôle technique strict de véhicules de grand tonnage. Et pendant que les questions de sécurité routière préoccupent toujours, un autre front d'inquiétude s'ouvre cette fois dans le Haut-Lomami. Dans cette province, les cadres des concertations de la société civile de Luena tire la sonnette d'alarme. La voirie urbaine de la cité se dégrade à grande vitesse, mise à rude preuve par les passages répétés des camions poids lourds. Ces véhicules, pour éviter la route nationale numéro 1, devenue quasi impraticable, empruntent désormais les rues de Luena, aggravant leur état déjà fragile. Dans une déclaration accordée ce samedi à Radio Okapi, le coordonnateur de la société civile appelle les autorités à agir d'urgence. Il demande la réhabilitation de la RN1 au niveau de l'UNA pour stopper l'hémorragie. Les précisions avec Paulin Munanga.
D'après la société civile, la route nationale est traversée par un ruisseau d'environ 10 mètres de largeur. Difficile pour les véhicules de franchir la route à cet endroit. C'est ainsi que les véhicules empruntent les avenues de la cité de Luena pour éviter cet obstacle. Chose que la société civile déplore. Garik Mouemakalonda est le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Luena.
Suite à l'impraticabilité de la route nationale numéro 1, les camions poids lourds empruntent maintenant les avenues de la cité de Luena, principalement l'avenue du fleuve Congo, où les camions s'embourbent maintenant. Et quand les camions s'embourbent, les convoyeurs commencent à arracher les pierres des caniveaux pour boucher les trous afin de faciliter leur passage. Et avec le système de salongo organisé dans cette commune, l'avenue du fleuve Congo a été toujours bien assainie par la population.
La société civile de Luena souligne que sur la nationale numéro 1, il y a un poste de péage qui est érigé. Mais cette structure dit ne pas comprendre comment est-ce que les autorités ne parviennent pas à arranger la partie délabrée sur cette route. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans la continuité de ces événements qui frappent l'actualité nationale, une autre tragédie mobilise fortement les autorités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime sa profonde compassion envers les familles des victimes de l'éboulement meurtrier survenu le 28 janvier 2026 sur le site minier des Luowo dans la zone de Rubaya. Nous sommes en Nord Kivu. Un drame d'une ampleur exceptionnelle. Au moins 200 personnes ont perdu la vie. Pour la plupart, des créseurs artisanaux travaillant dans des conditions extrêmement précaires, sans aucune mesure de sécurité. Les autorités rappellent que cette zone minière est classée rouge, donc formellement interdite à toute activité d'exploitation. Pourtant, l'extraction s'y poursuit illégalement dans un contexte d'occupation armée. Dans son communiqué, le gouvernement pointe du doigt le Rwanda et le rebelle de l'AFC M23 qui l'accuse de tirer profit de l'exploitation l'extraction illégale du coltan avec des volumes estimés entre 112 et 125 tonnes par mois, une véritable économie de guerre selon les autorités. Le texte dénonce également les défaillances des mécanismes internationaux de traçabilité et la responsabilité de certains acteurs économiques qui continuent d'acheter ces minerais en dépit des alertes officielles. Le gouvernement rappelle que ces pratiques constituent des graves violations du droit international. Il annonce la poursuite de la documentation du dossier en vue d'actions devant les juridictions compétentes, tout en réaffirmant sa détermination à rétablir l'autorité de l'État et à mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Enfin, Kinshasa appelle la communauté internationale à prendre toute la mesure de ce drame et de ses causes profondes. Pour refermer ce chapitre consacré aux enjeux environnementaux et sécuritaires, cap maintenant sur la Tchopo où une autre forme des menaces suscite une vive inquiétude. Le trafic illicite de grands singes prend de l'ampleur dans la province, alerte les organisations de conservation. C'est ce qui ressort d'un atelier consacré à l'élaboration de stratégies de lutte contre ces crimes fauniques organisé ce week-end à Kisangani par l'ONG Action pour le droit de l'environnement et la restauration des écosystèmes. Qui sont les acteurs derrière ces commerces illégaux, pourtant strictement interdits par la loi, et où finissent ces espèces protégées une fois capturées? Élément de réponse avec Jacques Moukonkolé.
Ce trafic est pratiqué par une chaîne d'acteurs, notamment des braconniers, des intermédiaires ainsi que des trafiquants. Selon le professeur Nikes Razo Amundala, une enquête menée par l'ONG ADRE en 2005 dans plus de 80 quartiers de la ville de Kisangani a révélé la présence d'une quarantaine de grands singes dans des ménages de façon illégale.
On s'est rendu compte qu'il y avait 43 chimpanzés dans les ménages des gens. C'est des espèces totalement protégées. Pour les garder, il faut payer des taxes. Personne ne nous a présenté les taxes. Attention, quand vous trouvez chez quelqu'un, il y a des cages avec un individu, vous dites, mais pourquoi c'est cette cage? Probablement, il est aussi impliqué.
Les crimes fauniques perpétrés par les trafiquants génèrent beaucoup d'argent profitable aux commanditaires, comme l'affirme Maître Yves Agwamba du barreau de la Tchopo.
Ça engrange plus de 20 milliards de dollars par an. Au regard de la documentation que nous avons vue au profit du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est notamment, Chine et les autres.
En vue de lutter contre ce trafic faunique illicite, il prône la collaboration des différents services, la sensibilisation de la population sur la conservation de la biodiversité. La presse, les officiels et les députés provinciaux seront également mis à contribution. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Nous ouvrons maintenant un tout autre chapitre de ce journal avec une actualité particulièrement préoccupante à Nitori, dans les territoires de Mombasa, au village d'Antitongue. Une femme d'une quarantaine d'années a été victime d'une agression d'une extrême gravité alors qu'elle s'est trouvée dans son champ, selon les activistes locaux de droits de l'homme qui portaient ce fait ce dimanche. Son fils, témoin direct de la scène, a lui aussi été violencé et torturé par le groupe ADF, auteur de ces attaques, un acte qui vient s'ajouter à une longue série de violences de droits humains déjà documentées dans cette région sous forte pression sécuritaire. Les détails avec Martial Kizabiamungu.
Les faits remontent aux petites heures de la soirée de vendredi dernier au village Anditongue dans les territoires de Mambasa. Quatre hommes armés de fusils et de machettes identifiés comme des éléments des ADF en errance dans la région surgissent dans un champ où ils trouvent une femme de plus de 40 ans avec son fils en pleine activité de récolte des ripadis. Selon des activistes des droits de l'homme dans la région qui citent les témoins, ces rebelles ont pris par la force la femme, l'ont déshabillée avant de la violer à tour de rôle. Son fils, qui assiste à cet acte odieux, sera ligoté avant d'être torturé à mort. John Vuleverio, activiste des droits de l'homme, parle d'actes de trop qui ont déjà coûté la vie à deux personnes et fait plusieurs blessés en l'espace d'une semaine.
Nous ne cesserons à interpeller les autorités pour bien vouloir mettre au centre de leurs réflexions cette situation que traverse la population de Wallace Karo et Wallace Dessen.
En janvier 2026, les rebelles des ADF et leurs supplétifs qui fuient les opérations militaires multiplient les exactions contre des civils dans plusieurs entités de Mombasa. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
À Kisangani, les FARDC ont réussi ce samedi à neutraliser une nouvelle menace venue du ciel. 4 drones kamikazes armés ont été détruits en plein vol avant même d'atteindre leur cible. L'opération s'est déroulée à environ 10 km de l'aéroport de Bangoka. Un 5e drone, lui, a terminé sa course sans provoquer des dégâts, s'écrasant juste à côté de la piste de l'aéroport. Selon plusieurs sources aéroportuaires, cette attaque pourrait être liée aux rebelles du M23 et leur allié, le Rwanda. Contacté à ce sujet, le porte-parole ad intérim des FARDC, le colonel Mac Azukai, indique qu'une communication officielle de l'armée est prévue ce lundi. Cap sur le Nord Kivu, où l'élan de solidarité devient crucial face au déplacement massif de la population à Kantine, à Loya, une localité située à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Beni. La société civile lance un appel pressant. Elle invite les habitants à soutenir les ménages déplacés qui fuient depuis décembre dernier les attaques répétées des ADF dans le groupement de Mouigny dans les territoires de Lubero. Cette structure citoyenne plaide également pour la mise en place des mesures sécuritaire adaptée afin de protéger durablement les populations qui ont trouvé refuge dans la zone. Tchétché Aliamini Moussoubao, président de la société civile de Kantine à Loya, s'est exprimé au téléphone. Il répond aux questions de Marc Marofimbo.
Comme nous partageons les mêmes limites avec les zones attaquées, l'agglomération de Kantine et ses environs reste sous menace et nécessite des mesures sécuritaires urgentes pour prévenir toute éventuelle attaque de l'ennemi, car Kantine constitue une zone d'accueil et de déplacés de guerre. Et je demande aux services de sécurité de renforcer des patrouilles et d'assurer une très belle collaboration étroite avec la population pour identifier toute menace potentielle et parce qu'ensemble, nous devons protéger notre communauté tout en offrant un soutien aux déplacés. Pour la question humanitaire de la population des cantines et des environs de cantines, on leur appelle à faire preuve de la solidarité et si les déplacés ont besoin de notre aide, que ce soit par des dons, nourriture, d'abri ou de vêtements, chaque geste compte et peut faire une différence significative dans leur vie.
Selon des sources militaires, après la dernière attaque des ADF dans le groupement de Mouigny, territoire de Lubero, une attaque qui a coûté la vie à une vingtaine de civils, les forces conjointes et FARDC UPDF ont été déployées dans la zone afin de renforcer la protection des populations.
Actualité internationale.
Depuis Téhéran, où il s'exprimait donc ce dimanche 1er février, le guide suprême iranien a averti les États-Unis qu'aucune menace militaire ne ferait reculer la République islamique. Son discours intervenait à l'occasion du 47e anniversaire du retour de l'imam Khamenei en Iran, fondateur de la République islamique en 1979. Ali Khamenei, qui lui a succédé 10 ans plus tard, a profité de cette tribune pour aborder plusieurs sujets sensibles. Il a qualifié le récent mouvement de contestation dans le pays de complot américano-sioniste, accusant les États-Unis et Israël d'être à l'origine de violences qui ont fait des milliers de morts et des blessés. Selon lui, certains meneurs auraient reçu de l'argent pour attaquer mosquées, bâtiments publics, commissariats et positions des milices islamiques comme les gardiens de la révolution. À propos des menaces américaines, Ali Khamenei a déclaré que l'Iran ne se laisserait pas intimider, en particulier par les annonces du président Donald Trump concernant le déploiement des forces navales dans la région. Il a prévenu, si les États-Unis lancent une guerre contre l'Iran, cette guerre deviendra régionale. Il a toutefois ajouté que l'Iran ne cherchait pas l'affrontement, mais qu'il riposterait fermement à toute attaque.
L'invité.
Dans la Chopo, une alerte environnementale prend de plus en plus d'ampleur. Le trafic illicite de grands singes inquiète profondément les écologistes et les experts scientifiques de la province. Pour faire face à ce phénomène en expansion, l'ONG Action pour le droit de l'environnement et la restauration des écosystèmes a réuni chercheurs, acteurs locaux et partenaires lors d'un atelier stratégique tenu du 30 au 31 janvier à la faculté de sciences de l'Université l'université de Kisangani pour décrypter les enjeux et les pistes d'action envisagées. Pour nous recevons aujourd'hui le professeur Nikeze Amundala Razo, initiateur de cette organisation environnementale, et il répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Professeur Nikeze Drazo Mundala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'organiser un atelier sur la lutte contre le trafic illicite des gros singes. Dites-nous, quel est l'état des lieux de ce trafic dans la Djoubo?
Je dois dire que c'est assez dramatique. Toutes les données, en tout cas, qui circulent, montrent que Kisangani est devenue la plaque tournante de trafic illicite des gros singes. Vous savez d'abord, Kisangani, c'est une ville essentiellement forestière. Et il se trouve au carrefour pratiquement de plusieurs aires protégées. Il y a Epulu, il y a la RFO, il y a Parc National de Maïko, il y a la réserve biosphérique de Yangambi, l'Omami et toutes ces aires protégées. Et donc la plupart des grands singes proviennent de ces aires protégées et ça arrive à Kisangani. Et ça prend l'avion à partir de Kisangani pour aller soit à l'extérieur, soit en tout cas en dehors de la ville de Gandhi.
Quel est l'élément déclencheur qui a rendu possible l'organisation de cet atelier?
Nous avons organisé une enquête ménage ici, en ville de Kisangani, en 2025. Et nous avons essayé de parcourir 88 quartiers de la ville de Kisangani. On a fait vraiment une enquête systématique. On s'est rendu compte qu'il y avait 43 chimpanzés dans les ménages des gens. On essaie de regarder les conditions de détention et tout ça. C'est hors norme. C'est que les gens ne savent pas. Le fait de garder ces animaux à la maison, vous exposez à des risques graves de maladies. Mais pire, c'est des espèces totalement protégées. Pour les garder, il faut payer des taxes. Personne ne nous a présenté les taxes. Alors pour nous, c'était déjà des indices pour dire attention, quand vous trouvez chez quelqu'un, il y a des cages avec un individu, vous dites mais pourquoi c'est cette cage? Probablement, il est aussi impliqué. C'est comme ça qu'on a commencé à demander aux partenaires pour dire aidez-nous à réunir les gens pour essayer. Surtout, l'idée pour nous est de pouvoir créer un réseau avec les hommes des médias, avec les hommes de la justice et toutes les autres parties prenantes qui interviennent dans la lutte contre le trafic illicite des grands singes.
Par rapport au trafic lui-même, est-ce que vous pouvez disposer de quelques statistiques?
Oui, sur le plan global, on a dit d'ailleurs que les 42 individus qui étaient attrapés au niveau des Lomé, ça proviendrait de Kisangani. Nous avons d'autres vidéos que nous gardons encore pour nous jusque là, des vidéos qui montrent que les bêtes sont transportées à partir de l'aéroport de Bangbuka.
Professeur, vous avez réuni beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous avez trouvé des failles qui rendent cette lutte difficile?
En fait, ce n'était pas un jugement. On est venu faire ici. On a laissé les participants libres, chacun dans son domaine, de nous dire quelles sont les difficultés, par exemple, que ces agents dans les différents services éprouvent, racontent, pour réaliser dans l'exercice de leurs fonctions, pour faire ce travail-là de lutte contre le trafic illicite. Les praticiens de la justice nous ont dit, par exemple, il y a parfois des choses qui ne marchent pas, il y a de l'influence, etc. Les autres viennent, ils ne sont pas formés. Pour la plupart, les gens ne sont pas formés, ils ne savent pas la distinction entre les espèces totalement protégées et les espèces protégées. Et donc il y a quelque part un déficit de vulgarisation de loi. Beaucoup de gens ne connaissent pas la loi.
Alors comment, professeur, impliquer les populations locales dans cette lutte quand on sait que la survie économique est un enjeu?
On a essayé de montrer aux gens que le fait d'entrer en contact avec les animaux, vous mangez la faune sauvage, mais n'oubliez pas que ces animaux régorgent de maladies. Ça peut vous contaminer. Deuxième chose, c'est que c'est des patrimoines très très importants pour les pays. Ces animaux-là peuvent aider dans l'écotourisme à gagner beaucoup d'argent et ça peut aider les communautés à sortir de la pauvreté dans laquelle on se retrouve maintenant.
Alors, quelle stratégie préconisez-vous pour lutter contre ce phénomène, ce fléau?
Très bien. On a mis déjà de poteaux sur les grandes artères pour dire aux gens stop à la criminalité faunique. Nous devons garder ces patrimoines qui peut nous donner beaucoup plus de moyens. On va renforcer certaines stratégies qu'on a mises sur pied aujourd'hui avec les députés provinciaux, par exemple. On va tout faire pour qu'il y ait des édits qui devront interdire l'abattage et tout ça de ces grands singes. Ça sont des choses qui doivent être faites dans les jours qui viennent, mais aussi avec les hommes des médias, vous, Vous devez nous aider à pouvoir vulgariser, sensibiliser les communautés pour que cette histoire s'arrête, parce qu'au final, la conservation n'est pas seulement l'affaire de nous, biologistes ou des hommes des droits ou encore des gens qui travaillent dans les aires protégées, mais c'est l'affaire de tout le monde.
Professeur Nikeze Amundala, merci.
Merci à vous, monsieur le journaliste.
Le professeur Nikeze Amundala Razo, initiateur de l'ONG Action pour le droit de l'environnement, de la restauration des écosystèmes, avec qui nous avons abordé donc les stratégies de lutte contre le trafic illicite de grands singes dans la Tchopo, un échange mené par Jacques Moukonkolé. Merci d'avoir été avec nous pour ce grand journal du soir. À la mise en onde aujourd'hui, Alain Goy, à la coordination éditoriale, Jude Misser Bilonda, présentation Gisèle Cage. Retrouvez ce journal à tout moment en podcast sur notre site www.radiocapi.net. Très belle soirée à vous et merci de rester fidèles à l'écoute.